Vous écoutez
RMC. RMC. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Dembélé qui a encore alerté. En un contre un, il le refait. De l'autre côté cette fois. Dembélé. But. C'est pas possible. C'est le match Ousmane Dembélé. Tout lui réussit ce soir. Le ballon d'or est au-dessus de la Norvège. Ousmane Dembélé est en feu ce soir.
Benoît Boutron, Gérard Martel.
18h58, on est dans Rotten sans flamme, on est en mode live dans Rotten sans flamme, ça y est, Brésil-Japon dans un instant, avec Jérôme Sillon sur place, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. On est en direct du Flora, on va vivre ce match avec vous en votre compagnie. Venez, on est dans le 9e arrondissement, sur les grands boulevards à Paris, venez en terrasse, il fait bon aujourd'hui, c'est pas comme la semaine dernière. Donc venez, on est nombreux et on va vibrer avec ce match Brésil-Japon, Benoît.
Magnifique, effectivement, l'un des plus beaux 16e de finale à suivre en direct dans Rotten sans flamme sur RMC. On n'oublie pas l'équipe de France, on en parlera dans un instant avec Arthur Perrault, avec
demain,
Christian. C'est demain 23h face à la Suède, qui jouera entre Doué et Barcola. Info d'ailleurs qui vient de tomber, Marcus Thuram est forfait pour ce 16e de finale des Bleus.
Il n'était pas forfait le dernier.
Non, mais on retourne tout de suite à Houston parce que les deux équipes se mettent en place, les Brésiliens et les Japonais, Jérôme Sillon.
Le coup d'envoi imminent effectivement à Houston dans ce stade qui ressemble de l'extérieur à un immense hangar à Airbus ou à Boeing, c'est selon ce que vous préférez dans les avions. Mais en attendant, à l'intérieur il est absolument magnifique, 75 000 spectateurs, on est un stade aux trois quarts jaune, donc aux couleurs du Brésil. Le coup d'envoi donné par la Seleção dans 6, 5, 4, 3, 2, 1 par Lucas Paqueta. Et le coup d'envoi de ce 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Brésil et le Japon. Les 5 fois champions du monde, les Brésiliens qui tentent donc d'accéder au 8e de finale. Il faut rappeler que le Brésil n'a plus été éliminé dès le premier match à élimination directe d'une Coupe du Monde depuis 1990 en Italie. C'était face à l'Argentine à l'époque. Et le Brésil, on vous le rappelle, avec la composition d'équipe Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Guimarães, Vinicius, Matheus Cunha et Ryan, vous l'avez compris, Neymar est sur le banc de touche, donc on devrait le voir en seconde période. Évidemment, il va de mieux en mieux, Neymar, en tout cas c'est ce que nous disait Carlo Ancelotti hier. Et puis du côté du Japon, le capitaine est Ritsu Doan, le joueur de Francfort. Deux anciens rémois, enfin un qui l'est toujours, Nakamura est titulaire, et Junya Ito, lui, qui est parti à Genk en Belgique, est également titulaire du côté japonais. Un premier ballon pour les Brésiliens dans leur moitié de terrain sur leur côté gauche, et une première faute, un coup franc qui va profiter à Gabriel. Les Japonais qui n'ont jamais remporté un match élimination directe de Coupe du Monde. Trois fois ils ont échoué en huitième de finale, et notamment en 2002 à la maison. Donc là c'est le moment de frapper un grand coup. Et pour avoir parlé avec les joueurs hier au sortir de l'entraînement, ils ont beaucoup d'ambition et ils ne veulent plus respecter les grandes nations du jeu comme ils le faisaient précédemment.
Petite alerte pour Paqueta, Jérôme, on l'a vu se tenir la cuisse sur cette action.
En retombant effectivement sur ce petit coup franc, mais ça a l'air d'aller. Il s'est relevé, Lucas Paqueta, le joueur de Flamengo, il réclame même le ballon. Les Brésiliens attaquent côté droit avec Danilo, la talonnade de Casemiro. Oh, Casemiro qui se met à faire des talonnades. On aura tout vu, le contre-pressing gagnant de Bruno Guimarães. Et une première occasion déjà pour le joueur de Newcastle qui harangue la foule et qui demande aux supporters au Riverdé de mettre l'ambiance ici à Houston. Avec ce corner concédé par le gardien japonais Zion Suzuki, le gardien de Parme en Italie, qui vient de disputer sa première saison en Serie A. Il est né aux États-Unis. Son papa est ghanéen, sa maman est japonaise. C'est l'un des rares joueurs métis donc de cette composition d'équipe japonaise. Corner de la droite quand on regarde le but de Zion Suzuki. Corner que va tirer justement Bruno Guimarães. 2 minutes de jeu, 0-0 entre le Brésil et le Japon. Le corner, c'est parti pour Bruno Guimarães. Premier poteau, c'est coupé, c'est renvoyé par la défense japonaise. 0-0 et 2 minutes de jeu.
Est-ce que c'est un match piège pour les Brésiliens ou pas, Jérôme?
Un piège, il n'y a pas de match piège. On est en 16e de finale, c'est un match couperet. Tu ne peux pas te faire surprendre par un adversaire. On en parlait tout à l'heure dans la façon de gérer de l'équipe de France et de se sentir au-dessus des adversaires. J'imagine que le Brésil, en toute logique, s'attend à se qualifier. Mais pour se qualifier, il va falloir mettre exactement à peu près la même chose qu'ils ont fait sur le dernier match contre l'Écosse, où je les ai trouvés meilleurs dans collectivement. À défaut d'être flamboyants, ils ont quand même été meilleurs. Voilà, il faut mettre les mêmes ingrédients avec les duels, être précis, mettre du rythme quand t'as pas le ballon. Et puis mettre de la qualité offensive quand t'as l'occasion de les inquiéter. Donc pour moi, il n'y a pas de match piège. S'ils n'arrivent pas à gagner ce match-là, c'est que les limites qu'on a senties sur le premier match contre le Maroc, rappelle-toi, elles se vérifient. Mais j'espère pas. Déjà pour la Coupe du Monde, alors c'est pas faire critiquer les Japonais. S'ils passent, tant mieux pour eux, ça serait la première fois, ça serait historique. Mais pour la Coupe du Monde et pour l'élan de la Coupe du Monde et l'attractivité, vaut mieux que le Brésil passe quand même.
Eric, t'avais une impression, c'est que le match ne serait pas fermé. C'est ce qu'on voit depuis quelques secondes, hein. Eric, le début de match est en ballon.
Jérôme Sillon, puisqu'on a deux Jérômes, on va les appeler par leur nom, nous expliquer que le Japon a décidé de plus respecter les grands adversaires. On voit quand même que c'est ambitieux. Il faut un gros pressing très haut là. Alors du coup, ils vont prendre des risques et peut-être des contres. Mais on les a déjà vus récupérer des ballons chauds dans le camp adversaire.
Ouais, Jérôme, c'est vrai qu'on voit une belle équipe japonaise.
Ouais, vas-y. Exactement, mais il y a beaucoup de joueurs à vocation offensive. Il faut quand même se rendre compte que Ritsu Doan et Nakamura en club, ce sont des ailiers. Et là, ils jouent piston. Hein. Donc il y a Kamada également pour organiser le jeu. Il y a Ito, Ueda et Maeda devant. Ça fait en fait 5 attaquants alignés par Moriyasu, le sélectionneur, plus donc Daichi Kamada, qui est vraiment l'organisateur de cette équipe, qui évolue à Crystal Palace et qu'on a connu également en Bundesliga avec Francfort ou même en Serie A avec la Lazio. Donc c'est vraiment une équipe à vocation offensive. Ils avaient annoncé la couleur de toute façon. Ils vont aller chercher les Brésiliens. Ils sont là pour se qualifier, pour marquer l'histoire. Les Japonais, ils en ont assez de se faire sortir dès les huitièmes de finale. Même si là c'est un 16e, c'est en tout cas, on le rappelle, la première fois peut-être qu'ils vont espérer se qualifier pour gagner un match élimination directe de Coupe du Monde. Donc en tout cas, voilà, il y a de l'ambition et ça se voit sur le terrain tout à l'heure avec le pressing notamment, qui a été gagnant sur une remise en retrait de Danilo qui a été ratée. Et derrière, il a fallu la couverture de Marquinhos sur Daizen Maeda, l'attaquant du Celtic, pour récupérer le ballon. 5 minutes de jeu, 0-0 entre le Brésil et le Japon.
Et Jérôme, tu nous interromps dès qu'il se passe quelque chose à Houston. Reparlons tout de même de l'équipe de France avec Arthur Perrault qui est au plus près des Bleus dans cette veille de 16e de finale face à la Suède. Salut Arthur.
Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Ça va, t'as récupéré de vendredi et ta marche.
Barbecue. Eh oui, le barbecue, la marche et compagnie. Oui, bien sûr.
Tout le monde m'a parlé de ma condition physique catastrophique grâce à toi, Jérôme. Merci encore.
L'émission est très écoutée.
Oui, oui, j'ai remarqué.
Mieux vaut tard que jamais pour la travailler.
La condition physique est vraiment très basse.
Oui, aussi, t'as raison, Eric. Arthur, on voulait parler avec toi des incertitudes qui règnent autour de cette compo des Bleus demain. Il y a quelques zones d'interrogation. Déjà, on a appris un forfait officiel, celui de Marcus Thuram.
Oui, Marcus Thuram qui s'entraînait à part, hein, déjà depuis plusieurs séances, victime d'une petite gêne musculaire au niveau du mollet. Voilà, ça semble se traîner pour l'attaquant et donc son forfait a d'ores et déjà été acté tout à l'heure en conférence de presse par le sélectionneur Didier Deschamps. Il faudra aussi surveiller l'état de forme de N'Golo Kanté, le milieu de terrain qui lui aussi s'est entraîné à part hier lors de l'entraînement à huis clos avec le préparateur physique Cyril Moine. Voilà, pour l'instant, rien d'acté concernant N'Golo Kanté, mais Didier Deschamps a précisé qu'il tenait à échanger avec lui aujourd'hui, à le revoir pour justement essayer de sentir un petit peu comment il se sent avant de prendre toute décision à la veille de cette rencontre face à la Suède.
Parlons notamment des latéraux, parce que c'est là qu'on se pose pas mal de questions. Ce poste de latéral gauche, qui sera titulaire demain, Digne ou Théo Hernandez?
Oui, plusieurs interrogations dans cette composition d'équipe, à commencer par ce poste des latéraux où on le rappelle, Théo Hernandez, a eu sa chance, a déjà disputé deux rencontres, a été fautif lors du dernier match sur le penalty concédé par l'équipe de France, stoppé par Mike Maignan. On le sait, la concurrence est plus que jamais d'actualité à ce poste, tant l'écart est quand même très très infime entre lui et Lucas Digne, et forcément que Didier Deschamps a été interrogé sur ce doute qui existe entre ces deux hommes avant le match face à la Suède. Vous allez le voir, le sélectionneur qui attache quand même beaucoup d'importance à l'alternance à ce poste.
Je choisis à chaque match qu'il y ait une alternance. Il peut avoir une alternance plus haut aussi, de l'autre côté aussi. Je connais les deux joueurs qui n'ont pas le même profil. Moi, ce que je veux, c'est que celui qui commence, il soit très bon. Et celui qui rentre, s'il a rentré, qu'il soit très bon aussi. Mais après, j'ai des choix à faire. Mais j'ai pas que là, à faire des choix. Qu'ils aient pu répartir le temps de jeu, c'est plutôt une bonne chose aussi. Avec le staff, on fait en sorte de garder tout le monde, concerner tout le monde. Évidemment, l'esprit qui anime ce groupe aide aussi. Mais je comprends la la déception, voire la frustration par moment. Quand elle est vis-à-vis de moi, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que ça n'impacte pas le groupe.
Un doute qui existe donc entre Théo Hernandez et Lucas Digne. Petit point sur le direct, 8 minutes de jeu. Jérôme Sillon, toujours pas de but entre le Brésil et le Japon. Hein.
En 0-0 et la possession de balle pour l'instant pour la Seleção avec Marquinhos qui peut écarter sur le côté droit en direction de Ryan qui supplée Rafinha, le Barcelonais qui est espéré pour les quarts de finale après sa blessure musculaire de grade 1, pas trop grave donc, mais qui l'empêche pour l'instant d'aider ses coéquipiers. Il est resté d'ailleurs au camp de base brésilien pour continuer à se soigner et se préparer. Rafinha, ballon pour Gabriel, toujours pas d'occasion nette ici à Houston, un appui sur Vinicius, mais on voit une équipe brésilienne un peu comme depuis le début de cette Coupe du Monde qui voilà, a du mal pour l'instant à trouver la faille dans les débuts de rencontre. Ça s'ouvre en général au fur et à mesure que le match avance. Là peut-être avec cette transversale de Ryan en direction de Douglas Santos, derrière lui Marquinhos, les Brésiliens qui préfèrent reculer encore avec Casemiro. On retourne sur Douglas Santos côté gauche et on va de nouveau repartir par la défense. 9 minutes de jeu, 0-0 entre le Brésil et le Japon ici à Houston en 16e de finale.
Ouais, il va falloir prendre un peu plus de risques dans les passes pour les Brésiliens parce que faire tourner le ballon à droite à gauche, il y a beaucoup de mouvements, ils veulent le ballon dans les pieds, mais quand tu arrives dans les 30 mètres japonais, si tu continues à jouer à la...
Ah, il est bon cet appel là justement, Jérôme, de Danilo dans le dos de la défense japonaise, la remise vers Paqueta, le ballon levé de la tête par Itsudohan, pas de coup franc, ça joue la reprise de Bruno Guimarães en pleine tête de Lucas Paqueta, mais c'est pas terminé pour la Seleção. Bruno Guimarães encore côté gauche avec Douglas Santos, Gabriel qui était monté très haut et Mateus
Cunha, il a assommé.
Ah oui, il a complètement assommé Lucas Paqueta, son coéquipier. Il s'est relevé, le petit ballon de Marquinhos vers Vinicius, ouh là là, ça a été enlevé par la défense centrale japonaise. 10 minutes de jeu, 0-0, mais première chaleur sur le but japonais. Et justement, Jérôme, c'est venu d'un appel de Danilo dans le dos de la défense.
On va revenir rapidement juste sur le match. Je voulais terminer avec Arthur Perrault. L'autre doute, et c'est le poste qui nous intéresse le plus, c'est qui sera titulaire entre Barcola et Doué. Est-ce qu'on a une tendance qui se dégage, Arthur?
C'est encore compliqué hein. À cette heure-ci, on le rappelle, ouais. Deux joueurs qui sont aussi en concurrence au Paris Saint-Germain. Oui, merci. Qui sont aussi en concurrence au Paris Saint-Germain avec deux profils totalement différents. On va essayer, c'est pas gagné.
C'est dur ou pas? Il y a quand même un endroit où tu peux.
Ne dévoile pas les ficelles, hein. Ne dis rien.
Non, mais sans
dévoiler.
Tu grimpes
pas aux arbres, toi, quand même.
On va dire que la sécurité est très présente et très chargée.
Ah, elle est voilà. Vigilante, ah, d'accord. Ah, okay.
Et puis là-bas, aux États-Unis, il ne faut pas rigoler, tu finis en zone.
C'est sûr.
Et puis, il ne faut pas rigoler. Voilà. Oui, il y a un vrai doute, deux profils totalement différents, et ça, le sélectionneur Didier Deschamps en a conscience, et il en a évidemment parlé en conférence de presse.
Forcément, les profils de joueurs amènent à avoir de la dangerosité dans des domaines différents. Équilibre l'un et l'autre, il n'y a pas de problème pour les associer aux trois autres joueurs offensifs. Après, ça dépend des scénarios de match, des circonstances de match aussi. Marco n'a pas toujours eu cette capacité à bien rentrer ou à bien commencer les matchs. Là, il est bien. Dez a eu un petit peu de réticence ou un peu de fébrilité sur le premier match. Mais c'est deux joueurs qui sont faits pour le très haut niveau. Moi, je veux que celui qui commence, il soit très bon, et celui qui rentre aussi.
Une belle réponse de Normand.
Voilà, la suite du programme, Jérôme, tu en parlais pour l'équipe de France. C'est cet entraînement prévu à 17h heure locale, 23h heure française. Premier quart d'heure ouvert aux médias, le reste à l'abri des regards. C'est là que Didier Deschamps peaufinera justement ses choix avant la rencontre de demain. À surveiller, messieurs, les conditions météo. Aujourd'hui, il fait 30 degrés à l'ombre. La chaleur est de retour dans la préparation de l'équipe de France en vue de ce 16e de finale. Et demain, on annonce une alerte chaleur extrême, une nouvelle fois 30 degrés à l'ombre annoncé pour ce match au MetLife Stadium, stade où il y a très 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 peu d'ombre. Donc ce sera vraiment en plein cagnard pour l'ensemble du groupe France, ouais. Ce match contre la Suède.
Merci Arthur, on te retrouve un peu plus tard sur RMC. Rotten sans flamme, il est 19h12 sur RMC, on va retourner à Houston pour ce Brésil-Japon. On a eu très peur pour la cheville de Vinicius, Jérôme Sillon.
Oui, mais tout va bien pour Vinicius qui s'est relevé et le jeu a pu reprendre également. 13e minute de jeu ici à Houston, 0-0 entre le Brésil et le Japon. On a vu une incursion également de Nakamura sur le côté gauche, le joueur du Stade de Reims qui a été plutôt prolifique cette saison en Ligue 2 avec 14 buts marqués avec le club champenois. Il a centré dans la surface, a été détourné par la tête de Marquinhos. C'était la première incursion japonaise, mais pour l'instant plutôt une domination territoriale et également avec la possession de balle à 60% pour le Brésil. Là, c'est bien joué. Matheus Cunha qui est lancé par Bruno Guimarães. Et la frappe pied gauche de Matheus Cunha. La parade de Zion Suzuki qui s'est bien détendu sur son côté droit, le gardien de Parme. La belle frappe pied gauche, même si elle était un poil écrasée quand même. Attention, c'est joué vite ce corner de la gauche avec Vinicius. Paqueta, ça va revenir deuxième poteau. Et finalement, ça va passer à côté de la cage. Cette tentative de Bruno Guimarães. Donc, c'est en tout cas un Brésil qui est pour l'instant, bien qui réalise un bon début de match et qui
Brésil
s'est
déjà
créé deux petites situations.
Exactement, on est agréablement surpris par le début de match du Brésil, non Jérôme?
Ouais, il met du rythme. Alors après, moi je suis un peu moins
enthousiaste que nous.
Ouais, parce que je trouve que dans le dernier geste, il y a mieux à faire. Des fois, là, la frappe de Cunha, elle est on voit le ralenti, elle passe
attention
à côté.
Attention à Juni Aito, voilà. Il a échappé à tout le monde, mais pas à Casemiro qui prend un avertissement. Casemiro qui prend un avertissement, c'est presque un pléonasme de toute façon. Mais même si depuis le début de la Coupe du Monde, il était passé à travers les mailles du filet, le milieu de terrain défensif de Manchester United qui va sans doute s'engager avec l'Inter Miami à partir de cet été. Et c'est surtout un excellent coup franc, Jérôme, à l'entrée de la surface de réparation.
Pas derrière en plus. Hein.
Non mais Casemiro, on l'a trouvé. Alors déjà, rappelle-toi le match contre le Maroc, le premier, où il était complètement à la ramasse.
Ouais, hein. C'est honteux.
Mais là, la faute est grossière. Et puis surtout, elle est alors juste avant la surface, donc elle donne un bon coup franc. Il doit rester debout. Du moins, en plus, il y a des défenseurs devant. Je vois pas pourquoi il fait faute, Eric.
Non mais Jérôme, c'est quand même un des signes que le Brésil n'a pas une grande génération. Si Casemiro est encore sur le terrain et respire sa carrière et tout ce qu'il a fait, c'est très grand joueur. Hein, mais s'il est encore là, c'est qu'il y a un problème. Quoi,
34 ans, 12e match de Coupe du Monde pour Casemiro.
Et une très belle opportunité pour le Japon. 15 minutes de jeu, bon coup franc pour les Japonais à Houston face au Brésil.
Jérôme. Une époque, c'était un pénalty là.
Pour certains, ouais,
mais là on est à quoi, on est à 18 19 mètres du but d'Alisson, légèrement décalé sur le côté gauche quand on regarde le but du gardien brésilien pour tirer ce coup de pied arrêté d'Aichi Kamada, le joueur de Crystal Palace qui a marqué deux buts depuis le début de cette Coupe du Monde. Il y a également le pied gauche de Daizen Maeda, a priori c'est plutôt pour un droitier, c'est plutôt pour Kamada. C'est parti Kamada, il a cherché premier poteau mais c'est renvoyé par le mur brésilien. Corner à suivre. C'est pas un coup franc là, Jérôme Rotten.
Non, c'est mal tiré.
Tu l'as senti tout de suite, Jérôme, que c'était mal frappé.
Franchement, c'est pas.
Le
ballon, il s'est levé à même pas un mètre du sol, quoi. Tu vois, et c'est.
Il y a du bon moment en tribune.
Tu peux faire tirer un gaucher à cet endroit-là, quand même. Hein. Il contourne le mur.
Oh, Bebeto, bah oui, incroyable. Bebeto, Ronaldo, magnifique.
Et Roberto Carlos aussi. Hein.
Roberto Carlos.
Bebeto, il est en forme, les autres un petit peu moins. Le corner de la gauche.
Ronaldo, il a mangé deux Bebeto. Ouais.
C'est parti pour Juni Aito. Oh, c'est bien tiré, mais c'est bien négocié également par la défense brésilienne qui s'en sort. 16 minutes de jeu, 0-0, mais attention, ça va revenir avec la récupération japonaise. Les deux copains du stade de Reims, Nakamura et Juni Aito, ils ont joué pourtant longtemps ensemble, mais la passe de Juni Aito, elle est trop profonde pour Keito Nakamura. 0-0, 16 minutes de jeu ici à Houston entre le Brésil et le Japon.
Et on va suivre quand même cette offensive japonaise, ouais, effectivement. C'est un petit but, donc 0-0 entre le Brésil et le Japon. 16 minutes de jeu.
Si le Japon veut faire l'exploit sur ces phases-là, il faut être. Non, mais il faut être beaucoup plus juste. Déjà, le coup franc. Alors, je dis pas que tu dois marquer absolument, mais c'est quand même une belle occasion de but vu le coup franc était à 19 mètres. Tu vois, tu dois faire mieux. Et puis là, sur ce dédoublement, il y a aucune justesse. Donc,
Et je vous entendais parler du
attention
Brésil.
Attention à ce que font les Brésiliens. Attention parce que Paqueta est allé chercher très haut. Ça a libéré de l'espace au milieu du terrain. Et les Japonais peuvent partir à l'attaque côté droit avec un ballon pour. Sur le côté droit, c'était Daizen Maeda qui s'était laissé oublier sur le côté droit. Daizen Maeda, et finalement son centre pied droit a été contré par Douglas Santos. Ça touche à venir. On est au niveau de la surface de réparation brésilienne sur le côté droit de l'attaque des Japonais. La remise en jeu pour Ritsu Doan, l'ancien joueur de Fribourg qui évolue à Francfort maintenant. La touche, elle a été effectuée, mais il y a une petite faute de main malheureusement pour les Japonais. Ouais. Qui est sifflé contre Ayase Ueda, l'attaquant de Feyenoord. 0-0,
moi, je comprends
18
pas,
minutes
je
de jeu.
Je comprends pas la façon de défendre du Brésil.
Mais Paqueta dans un milieu à 3, c'est un peu risqué de façon générale.
Déjà, regardez bien comment il joue. Là, il joue pas milieu à 3. Je sais pas si Eric, tu es d'accord, mais il joue avec deux attaquants. Le Brésil, en gros, pour déclencher le pressing, Vinicius et Cunha. Après, tu as une ligne de 3. Avec Paqueta plus à gauche, Guimarães dans l'axe et Ryan côté droit. Et t'as Casimiro qui se retrouve à compenser un petit peu. Alors déjà qu'à 34 ans, il a un peu du mal à revenir. On l'a vu sur l'action d'avant. Mais il y a des boulevards énormes. Et si les Japonais, et viennent de le faire sur l'action, arrivent à trouver un petit décalage, le milieu de terrain adverse, il a juste à se mettre dans le dos de Paqueta ou de Ryan. Et après, ça lui ouvre tout le champ au milieu de terrain, parce que les défenseurs sont bloqués par les attaquants japonais. Donc, pour moi, Ancelotti, là, je sais pas ce qu'il
est. C'est un peu risqué.
Tactiquement,
c'est presque un diamant, en fait, hein, Jérôme, qu'il a mis en place, parce que Cunha, en fait, c'est un faux avant-centre. Il redescend vachement, en fait, dans le rond central pour proposer des solutions. Et du coup, c'est vrai que Ryan et Vinicius écartent, mais il y a toujours de l'espace dans le cœur du jeu, en tout cas en phase de possession. Hein. Donc,
bizarre.
Évidemment, il y a des ajustements à faire.
Et puis Eric, ce sentiment là, aussi dès qu'il y a un peu de rythme et d'intensité, c'est là que le milieu de terrain brésilien est en difficulté. Ben,
c'est ce triangle là, les deux défenseurs centraux avec Casemiro là, brillent pas par leur vitesse. Ouais. Donc là, s'ils arrivent justement dans cette zone là, soit en récupérant des ballons hauts, soit en transition rapide, ils peuvent leur faire mal. Hein, attention. Hein. Alors après, est-ce qu'ils ont le talent? Pour le faire, ça on verra, mais ils ont l'air d'avoir les cannes en tout cas, parce qu'ils galopent les Japonais.
Ouais, c'est vrai qu'ils courent.
Ouais. Vas-y Jérôme.
Non. Avec
Jérôme Sion.
Avec la récupération, donc la touche pour les Japonais. 0-0 avec ce ballon gratté par Bruno Guimarães. Je suis dans l'intensité, évidemment. Il répond, l'ancien Lyonnais, 20 minutes de jeu. 0-0, mais le tacle derrière a rendu le ballon aux Japonais avec la relance d'Hiroki Ito, le défenseur du Bayern. Elle est complètement ratée. Douglas Santos a pu anticiper dans le camp japonais. Décalé côté gauche maintenant, Vinicius. Extérieur surface de réparation. Le centre au point de pénalty renvoyé par Taniguchi. C'est pas terminé avec une nouvelle possibilité. Le centre maintenant de Lucas Paqueta a été ralenti par la défense japonaise. Et le dégagement de Shogo Taniguchi, le joueur de Saint-Tron en Belgique, qui renvoie le ballon très loin derrière. Avec la récupération de Gabriel. Tout n'est pas parfait côté brésilien, mais il y a quand même, on le sent, des possibilités de bien mettre en difficulté cette attaque japonaise, cette défense japonaise, pardon, avec, on l'a dit, énormément de joueurs à vocation offensive, et notamment Doan et Nakamura qui jouent donc piston et qui sont en position défensive des latéraux, Jay, alors qu'en réalité, d'habitude, dans leur saison, dans leur club, ils sont attaquants. Hein.
Ouais, bah après. Je trouve que quand ils récupèrent le ballon, ils font des choses, ils essayent d'aller vite vers l'avant, ils font des choses intéressantes, sauf dans les 30 derniers mètres du Brésil, où là, ils doivent s'améliorer. Mais après, je trouve que défensivement, en effet, les premières minutes ont montré qu'ils voulaient aller presser haut, on l'a dit avec Eric. Et puis là, depuis un quart d'heure, ça a duré 5 minutes, ça, ce pressing. Depuis un quart d'heure, ils acceptent, si tu veux, que le Brésil fasse des passes. Ils se regroupaient dans leurs 40 mètres, assez attentistes. Et c'est là que le Brésil doit avoir une inspiration géniale. Soit une course, on l'a vu tout à l'heure avec Danilo, soit un attaquant ou un milieu offensif qui vient décrocher, qui vient percuter avec le ballon.
Et là, l'ouverture de Lucas Paqueta, la diagonale, elle est complètement ratée. Le nouveau joueur de Flamengo qui a quitté West Ham cet hiver, Lucas Paqueta, sa passe elle est trop profonde en direction de Danilo, son coéquipier d'ailleurs désormais dans le club de Flamengo, qui a des moyens quand même pour faire revenir Paqueta, pour faire revenir Danilo, pour faire revenir Alexandro. Alors c'est plus des joueurs qui sont à leur prime peut-être, mais il y a de l'argent maintenant également dans le championnat brésilien, et Flamengo le prouve en rapatriant des internationaux.
Jérôme, un mot sur l'ambiance, le stade est brésilien ou il y a un peu de supporters japonais?
Ouais. Alors il y a beaucoup de supporters japonais quand même, hein, et, ils sont bien, je pense, 5000 dans ce stade de 75 000. Il y a une énorme mobilisation des Japonais, des États-Unis, et puis il y a eu également beaucoup de supporters qui ont fait le long déplacement depuis l'archipel japonais. Mais bon, il n'y a pas photo, hein, la communauté brésilienne ici aux États-Unis, elle est très forte aussi. Là on est aux trois quarts stade jaune, hein. Les Brésiliens de toute façon ils sont à bloc pour les avoir rencontrés, les supporters, que ce soit à Houston, à Miami. Voilà, ils y croient, même si c'est plus la même génération. L'espoir est revenu, hein, et notamment grâce à ce que propose l'équipe de Carlo Ancelotti, ce qu'elle a fait notamment contre l'Écosse à Miami.
Et puis Jérôme, quand tu regardes le tableau, Ah, le Brésil, il peut y avoir de.
Le vainqueur affrontera le vainqueur de Côte d'Ivoire-Norvège, le vainqueur de ce 16e.
Ouais, ouais, donc.
Peut-être l'Angleterre derrière.
Ouais.
Ouais, ouais, donc jusqu'en quart, je dis pas. Attention, il faut les gagner les matchs, hein, déjà celui-là. Mais jusqu'en quart, c'est totalement possible. Après, tu joues les Anglais, ça ferait une belle affiche.
C'est la pause fraîcheur ici à Houston, alors qu'il fait 22 degrés dans le stade qui est climatisé, toit fermé. Encore une aberration, mais bon, c'est comme ça. 0-0, 23 ouais. minutes de jeu ici à Houston.
Le concept de la pause fraîcheur dans un stade climatisé, ça c'est pas mal. Bravo la FIFA. Quelle bande de cadors. 23 minutes 0-0 entre le Brésil et le Japon. Match que l'on suit en direct.
Prends ton souffle, Jérôme.
En intégralité dans Rotten sans flamme sur RMC. Avec la crème de la crème, Eric Dimeco, Jérôme Rotten. Et vous au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Je sens finalement d'Alistair Johnson. Capitaine qui récupère le ballon à l'arc de cercle au demi-cercle devant la surface de réparation et qui va crucifier les Sud-Africains et très certainement qualifier son pays pour les huitièmes de finale.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
On est dans Rotten sans flamme. Et oui, le Canada, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On est en plein Brésil-Japon, fin de la pause fraîcheur. Logique, hein. Ouais, ouais. Ils étaient amorphes, les joueurs. Donc, il fait 15 degrés dans le stade. Ils avaient besoin de boire. Et ben, on va repartir avec Jérôme Sillot, Eric Dimeco et Benoît Boutron. Et toujours 0-0. Hein.
Vas-y, Dieu.
0-0, 27 minutes de jeu. Il fait pas 15 degrés, il fait 22 degrés.
Je plaisante.
Il fait 22 degrés. La meilleure occasion, elle est pour les Brésiliens avec la frappe tout à l'heure de Matheus Cunha à la 13e. Et puis à l'instant, la première véritable occasion pour les Japonais sur un corner de la droite. La tête d'Ayase Ueda, l'attaquant de Feyenoord qui a marqué 26 buts cette saison avec le club de Rotterdam. Et sa tête est passée au-dessus du but d'Alisson. On joue depuis 27 minutes. 0-0 le dégagement d'Alisson en direction de Matheus, de Lucas Paqueta qui était en position d'avant-centre. Il avait interverti avec Matheus Cunha qui switch vraiment de position. Ils sont toujours en train d'échanger leur position, que ce soit Cunha, Guimaraes, Cunha, Paqueta. Il y a vraiment cette envie de créer de l'incertitude au niveau de l'attaque du Brésil. Et on est reparti sur une phase de possession brésilienne. 57% de possession pour le Brésil, 4 tirs à 2 en faveur de la Seleção dans ce début de rencontre, dans cette première demi-heure ici à Houston.
Jérôme et Eric, je vois pas comment ce milieu de terrain peut exister dans les grandes affiches face à des grandes équipes.
Ouais,
franchement, le Paqueta, Casemiro, Guimaraes, c'est compliqué quand même.
Alors on le verra en live et en réalité, mais le milieu de terrain des Pays-Bas, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il est meilleur. Hein.
Ah oui, ça oui.
Bah déjà, ils ont pris un bouillon contre le Maroc.
La nuit prochaine, ouais, effectivement, face au Maroc. Mais t'as raison, le De Jong, Gravenberch, il manque Reinders, ouais, effectivement. Reinders. Ouais, c'est bien meilleur sur le papier que le milieu de terrain brésilien. Ouais. Jérôme, d'ailleurs, c'est ce qui pêche un peu au Brésil. Hein, parce que
attention à la récupération, là, la passe ratée de Danilo. Avec Sano ! Avec Sano ! Oh ! Et le but !
Incroyable !
Le but pour le Japon !
Et le voilà !
C'est la sensation à Houston ! 29e minute de jeu ! Le but ! De Kaichou Sano, le joueur de Mayence vient battre Alisson et transpercer la défense brésilienne. La demi-heure de jeu, le Japon 1, le Brésil 0.
Et la réaction à contre-temps du Flora, la brasserie dans le 9e arrondissement de Paris, parce qu'on a quelques secondes d'avance, c'est la magie de la radio. Cette sensation à Houston.
Les fans japonais ici, nous.
Le Japon mène 1-0 face au Brésil. Ce but incroyable, cette frappe croisée. Est-ce que le gardien peut mieux faire, Jérôme, ou est-ce que l'action est fantastique?
Non, mais le gardien peut mieux faire, mais après, c'est.
Ouais, mais attends, il tombera tout dans l'axo.
Ouais, il est tout seul, le milieu de terrain, du Brésil.
Eric, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la perte de balle de Danilo, en effet, bon, il n'a pas à faire cette passe latérale comme ça. C'est le meilleur moyen pour quand tu fais des courses vers l'avant de d'éliminer beaucoup de joueurs d'un coup. Il y a 4-5 joueurs du Brésil éliminés. Et puis après, Casimiro qui court après. Moi, un crochet, il a juste. Je sais pas.
Casemiro, même Eric, il court plus vite aujourd'hui. C'est fou.
Après
peut-être pas.
Peut-être pas aujourd'hui. Hier, peut-être.
Non, mais la frappe, tu peux me dire que le gardien, il est responsable. Déjà, il est masqué au départ.
La frappe
est précise. Non, c'est un beau but du Japon. Hein,
mais même Gabriel, à un moment donné, il doit peut-être sortir un peu sortir quand même, ouais. Quand il a personne, puisqu'il voit que Marquinhos, il est au marquage, il le laisse reculer jusqu'au 18 mètres.
Il y a trois erreurs défensives, Eric. Il y a trois erreurs défensives.
Ils sont plusieurs. Voilà, Danilo, Casimiro et Gabriel. Parce qu'elle est bien mise, voir d'où il est le gardien, c'est dur. Hein.
Jérôme, parle-nous de l'attitude des Brésiliens et de Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il s'est levé de son banc pour encourager ses joueurs ?
Alors j'avoue que j'avais pas les yeux rivés sur Carlo Ancelotti. Moi je suis très très haut en plus dans le stade. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Casemiro a essayé timidement de remobiliser ses coéquipiers. Mais il doit se dire, bon, je suis un peu à la rue moi aussi. Donc écoute, il n'y a pas eu de rassemblement de joueurs. Il n'y a pas eu de volonté là de se resserrer. Donc peut-être qu'il n'y a pas encore de quoi, on va dire, s'inquiéter. Mais voilà, c'est sûr que va falloir très très vite se reprendre et surtout, mais beaucoup mieux défendre. Comment tu peux défendre comme ça à ce niveau de la compétition?
Je te rassure, Jérôme, l'aspect défensif, ok, mais tu sais, quand tu te fais transpercer par une passe latérale comme ça, encore une fois, t'es en phase offensive, t'essayes de créer quelque chose. Danilo, il te fait cette passe qui est interdite. Tu vois, même à un plus petit niveau, on te dit ces passes-là, attention, il faut être sûr. Là, il se fait contrer, ça élimine 4 joueurs, 5 joueurs brésiliens d'un coup. Casimiro, sur un crochet, il se fait prendre. Et puis derrière, comme l'a dit Eric, le défenseur, il sort pas. Mais on peut parler de l'aspect défensif, ok, sur cette action-là. Mais depuis le début du match, même s'ils ont le ballon, franchement, c'est plein flamboyant, quoi. Tu vois, ils doivent être beaucoup plus précis. On parle du Brésil quand même. Ouais. On parle pas de.
Et d'ailleurs, Jérôme, le cas Neymar a été évoqué hier par Carlo Ancelotti. On lui a demandé s'il aurait un peu plus de temps de jeu que lors du troisième match de poule. Est-ce qu'on en sait plus là-dessus? Quelle est l'autonomie de Neymar sur ce 16e de
Il a plus de quart d'heure, il a dit. Ouais. C'est rassurant. Bah,
Il peut jouer. Je pense qu'il peut jouer même 45 minutes. Hein, si jamais vraiment ça se passe mal d'ici la mi-temps, là. On peut imaginer que Neymar puisse faire son apparition. Je pense qu'il a 45 minutes dans les jambes. Moi, je l'ai vu à l'entraînement hier. Il est en forme. Il s'est bien entraîné maintenant depuis une bonne dizaine de jours. Il est de retour à l'entraînement collectif. Je pense qu'il n'y a rien qui l'empêche de jouer une mi-temps complète. Hein. Donc,
Continue comme ça, il va rentrer vite.
Il va rentrer.
Allez,
ouais.
le coup franc, parce que Douglas Santos s'est fait marcher sur le pied. Le coup franc de Paqueta, la tête de Marquinhos, décroisé. Est-ce qu'elle a été touchée? Non, elle n'a pas été touchée, cette tête de Marquinhos. Et on va rendre le ballon au Japonais. Douglas Santos qui avait pris le meilleur là sur Ritsu Doan, qui lui a marché sur les pieds, qui lui a même écrasé le pied avec sa semelle. Ritsu Doan, il n'a pas pris de carton jaune d'ailleurs, le capitaine japonais. 1-0 donc pour le Japon ici à Houston, 33e minute de jeu.
La sensation, 19h33, Rotten sans flamme sur RMC. Le Brésil est mené en 16e de finale de la Coupe du Monde par le Japon. Magnifique but inscrit par Ueda. La suite de ce match dans un instant. Jérôme, tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose. On va retrouver tout de suite Xavier Grimaud qui est en direct d'Irvine aux États-Unis pour RMC. Salut Xavier.
On n'est pas en Bretagne. Là.
Salut Jérôme. Salut messieurs.
Un autre climat. T'as de la crème solaire, Xavier. Tout à fait.
C'est couvert. J'en ai pas besoin là aujourd'hui.
Ah bon, ça va. Bon. Xavier, on voulait revenir avec toi sur la sensation entre guillemets d'hier, la première équipe qualifiée pour les huitièmes. Le Canada, pour la première fois de son histoire, a remporté un match de phase à élimination directe en Coupe du Monde.
Exactement, au Canada, ils ont brillé, les Canucks comme on les appelle. Ils avaient un match qui était abordable. Ça n'a pas été simple, mais ils l'ont gagné 1-0. Écoutez un peu ce que ça donnait. Avec la télé canadienne et l'ambiance qui explose dans le stade et dans toutes les watching parties, tous les écrans géants qu'il y avait au Canada, c'était assez énorme. Et pourtant, ils n'étaient pas nombreux au stade, hein, dans le stade de 70 000 places. Je pense qu'il y avait moins de 10 000 Canadiens qui avaient fait le déplacement. Il y avait beaucoup plus de Mexicains, par exemple, puisqu'on rappelle que le Canada ne joue pas son mondial, ne le jouera plus au pays, le jouera aux États-Unis. Bah, malgré tout, les supporters canadiens qui étaient là, bah, ils vivaient un vrai rêve.
C'est l'un des plus beaux jours de toute ma vie. Ma femme est juste là avec moi. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Quand j'étais petit, jamais je n'aurais imaginé vivre un match pareil. Alors le gagner, ça valait le coup de faire la route. De venir, ça valait tout. Je n'arrive pas à y croire. On va à Houston.
I can't believe it. We're going to Houston. Voilà, il avait un peu plus de 50 ans ce monsieur et ce supporter. Et voilà, il me disait qu'il est fan de foot depuis qu'il est gosse et que jamais il imaginait, Jérôme, j'ai entendu ce que tu as dit, c'est que l'Afrique du Sud, mais voilà, lui en tant que gamin, il n'imaginait jamais le Canada être capable de performer dans une Coupe du Monde. Et écoutez ce qu'en pense Maxime Crépeau, c'est le gardien de cette sélection canadienne. Lui, c'est un pur produit du Canada, du Québec. Il a joué qu'en MLS et il y avait une vraie émotion, il y avait une vraie émotion qu'on peut entendre.
C'est vraiment difficile à voir m'exprimer en ce moment. Ça fait 10 ans que j'étais avec le programme. D'où on vient, puis là où on s'en va dans la ronde des 16, c'est quelque chose de sensationnel pour tout le monde qui a mis l'effort depuis les 10, 15, 20 dernières années. Là, en ronde des 16, on vient un rêve. La culture de notre pays est en train de changer. Je trouve ça magnifique. On est habitué avec le hockey, évidemment, depuis le tout début des temps. Mais là, on est en train de changer la tendance, surtout chez nos jeunes à la maison, les terrains de foot qui se font construire, les infrastructures qui se font construire, la future génération. C'est magnifique de pouvoir jouer puis de, les enfants qui regardent la télévision, de s'accrocher à notre pays.
Voilà, c'est important pour le pays. Oui, c'est vrai que l'Afrique du Sud, mais le Canada partait tellement loin qu'ils ne banalisent pas du tout ça. Et ce sera un très, très gros adversaire ensuite en huitième, ils le savent.
Exactement.
Mais ils vont essayer de créer l'exploit.
Merci Xavier Grimaud. Ce sera le vainqueur de Pays-Bas-Maroc en huitième de finale. On a failli reconnaître l'accent d'Éric Dimeco avec le gardien de but canadien.
Ouais.
C'est vrai que ça se ressemble assez.
Ouais, ça ressemble beaucoup à Marseille, en effet.
C'est clair, c'est incroyable.
Il y a une ressemblance.
Allez, 19h36, la fin de la première période en intégralité entre le Brésil et le Japon. La sensation à Houston pour le moment, Jérôme Sillon.
Ouais, quelle surprise, enfin quelle surprise en même temps quand on connaît le foot et on connaît le foot dans Rotten sans flamme, on savait que le Japon avait les moyens de faire mal à cette équipe brésilienne, c'est le cas. Après 36 minutes, le Japon mène 1-0. C'est le premier but en sélection de Kaichu Sano, le joueur de Mayence qui a donc transpercé toute la défense en récupérant une mauvaise passe de Danilo, en profitant également de la lenteur de Casemiro et puis de l'absence également de monter sur lui de Gabriel. Derrière, ça a pas mal réagi pour les Brésiliens avec de l'envie, du contre-pressing. Mais il n'y a pas eu de position de frappe trouvée, Jérôme, ni par Bruno Guimarães, ni par Vinicius. Et en tout cas, on sent que les Brésiliens sont un poil plus haut quand même. Là, avec Casemiro, avec Matheus Cunha, avec Vinicius à 25 mètres du but de Suzuki, ça va revenir sur Gabriel, on repasse par Bruno Guimarães, on est dans l'axe du terrain, on va repartir à gauche avec le joueur d'Arsenal, toujours Gabriel avec Douglas Santos, l'appel de Vinicius et finalement on va repasser par la défense centrale avec le Brésil qui a effectué 3 fois plus de passes que les Japonais depuis le début de la rencontre.
Beaucoup de passes latérales,
Il manque un point d'appui devant.
Pour leur dire qu'à 300 passes, ils ne marquent pas un but.
On l'a dit, Jérôme, que ce poste de neuf, c'est un vrai problème au Brésil, parce que Matheus Cunha n'est pas un vrai neuf d'appui.
Mais heureusement que tu n'as pas un neuf d'appui. Non, mais franchement.
Au moins, tu pourrais le trouver au milieu des défenseurs centraux.
Mais il n'y en a pas un. Il n'y a pas un milieu de terrain qui arrive à trouver la bonne passe pour l'instant. Donc, c'est que des passes latérales. Et le danger, il vient que des décrochages de Vinicius. Qui essaye de bouger un petit peu.
Allez,
tout le
peut-être
monde
là, peut-être là avec Matheus Cunha, la frappe des 25 mètres, encore arrêt de terre, trop faible pour inquiéter Zion Suzuki qui capte tranquillement ce ballon. Matheus Cunha, c'est la deuxième frappe déjà de Matheus Cunha de la sorte. Tout à l'heure Vinicius également a tenté sa chance, mais pareil, ça manquait de puissance. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à riler la mire, les Brésiliens, toujours mené 1-0.
Là, c'est vrai, en effet, t'as raison, Jérôme, de dire que la frappe est écrasée, mais l'action est pas mal.
Tu vois,
une passe bien claquée, belle remise, il vient décrocher, il se met en position de frappe. Bon, bah là, elle est mal partie, mais lui est capable, si tu veux, d'envoyer un missile à 25 mètres. Mais c'est trop peu. Ce que je veux dire depuis le début du match pour le Brésil, du moins. Quand t'as autant de possession de balles, tu dois inquiéter d'autant plus cette équipe. Elle doit être sur le reculoir, cette équipe
du Japon. Proche de sa surface.
Ah bah oui.
Et Gabriel s'impatiente. Là, Gabriel s'impatiente parce qu'il est à 35 mètres du but de Suzuki. Il n'a pas d'appui devant lui, pas de solution. Il repasse par Marquinhos. Il y a un joueur qu'on voit très peu également, c'est Ryan qui remplace, on le rappelle, Rafinha blessé. Ouais. L'attaquant de Bournemouth qui pour l'instant ne fait aucune différence. Il propose pas grand chose. Et le jeu qui penche à gauche avec encore Vinicius qui repasse par Casemiro. Il est à la rue, Casemiro. Perdu le ballon, Casemiro.
Les deux,
et c'est un ballon qui est récupéré par les Japonais, mais contre-interrompu par le bon retour de Lucas Paqueta.
Ils font les deux, où tu as raison, Jérôme, c'est que les deux milieux de terrain, Paqueta et Casemiro, là, ils font la même première mi-temps que contre le Maroc.
Exactement.
Rappelle-toi,
Paqueta,
alors,
meilleur,
Casemiro.
Quand même,
hein. Oh, Paqueta.
Ah, il a fait deux, trois retours intéressants.
J'ai
quand même
48 ans, je pourrais faire deux fois mieux que lui. Non, mais franchement, arrête.
Oh non, là, quand même. Ouais. À un moment donné, je veux bien qu'on raconte des bêtises, ouais. Mais quand même. Non, mais
on est une émission crédible, quand même, Jérôme.
Ah ouais, Benoît, quand même, peut-être. À un moment donné, ouais. Non, ça
non,
va
Benoît,
se voir.
Non, Benoît non plus. Non, non. Benoît, il fait plus à Jérôme.
Eric, je te rassure, je t'ai pas parlé de toi, parce que toi, tu peux pas, t'es plus en condition.
Ah, mais non, mais. Oui, mais même toi, non, mais ne crois pas non plus.
Ah, mais dans les 30 mètres, je t'annonce, j'en verrai au moins. Alors après, je sais pas si ça trouve preneur et si physiquement je tiendrais, mais au moins je prendrais des risques avec la passe.
Je pense
là franchement ils peuvent jouer des heures et des heures, mais Casimiro et Paqueta, ils feront jamais une passe.
Et à la mi-temps contre le Maroc, ils avaient changé en faisant rentrer Fabinho notamment. Et
cette façon de contrôler le ballon avec la semelle, oui, moi arrêtez. J'en peux plus. Voilà. Non mais je te jure, ils font tout ça. Voilà. Gabriel qui met 100 ans à faire une passe, voilà. il fait semelle et après hop, passe en retrait à Marquinhos.
Il n'a pas crevé le ballon.
Non, arrête avec cette semelle.
Eric, tu fais des contrôles semelle toi ou pas?
C'est très football en salle, ça. Hein,
ouais. C'est vrai. Semelle, hein. Ouais. Nous, c'était quasiment interdit, Eric. Toi aussi, j'imagine. C'était,
ouais, moi j'en ai. Ouais, pas, ouais. Non, on ne faisait pas ça. Ouais, t'as du pied, sécurité.
Et voilà, et ça allait plus vite, au moins. Bim, bam, boum. Ouais. Exactement.
Regarde encore le centre de Paqueta, là. Mais foutez de moi ou quoi? Non, mais arrête.
Kata, le centre de Paqueta de la gauche, des 25 mètres.
Vous savez, je suis pieds nus. Je vais lui envoyer ma chaussure.
C'est vrai, en plus.
Attention à cette passe latérale là, avec le pressing de Vinicius. Ils s'en sortent, les deux défenseurs centraux japonais, Tomiyasu et Taniguchi, et le ballon qui passe pour Junya Ito à droite en direction de Ritsu Doan. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Japonais dans la moitié de terrain brésilienne, et là il n'y a pas de pressing sur eux. Ils vont pouvoir faire tourner et récupérer un petit peu, parce que c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'ils étaient dans leur surface, enfin dans leur moitié de terrain, les joueurs de Hajime Moriyasu. Et là ils vont pouvoir s'échanger un petit peu le ballon à 3 minutes et 30 secondes de la mi-temps. Si vous nous rejoignez sur RMC, le Brésil est mené 1-0 avec le but de Kaichu Sano, le joueur, le milieu de terrain de Mayence, qui a marqué son premier but en sélection. Les Japonais à droite avec Junya Ito, qui joue donc à Genk désormais en première division belge, l'ancien joueur du stade de Reims, avec un échange maintenant avec Ritsu Doan. Les Japonais qui sont à droite toujours, qui tentent d'échapper au pressing de Paqueta. Ritsu Doan qui est insaisissable et qui se fait quand même contrer par Casemiro, et derrière ce sera une touche mais en faveur du Japon, pas très loin de la surface de réparation du Brésil.
Alors, il faut une changer stat à la mi-temps, franchement, et il faut que Fabinho y rentre. Alors Fabinho, c'est plus le Fabinho d'antan, mais franchement il peut pas faire pire que Casemiro au milieu de terrain. Et, ouais. Et puis moi je ferais rentrer le petit Luis Enrique, rappelle-toi,
le match contre la France, du Zénith, qui avait été très bon, très, très intéressant. Et puis Neymar, on veut voir Neymar à la rigueur, Jérôme.
Neymar à une demi-heure de la fin, parce que moi je pense qu'une mi-temps Neymar, c'est compliqué.
Ouais, Jérôme, vous voulez une stat terrible? Paqueta, 40 minutes, il a déjà perdu 10 ballons.
Non, mais apparemment c'est très bien.
Surtout pour un milieu de terrain technique, c'est quand même catastrophique.
Attention à ce centre d'Edo Kito, c'est prolongé par Douglas Santos. Il y aura une touche pour les Japonais tout près de la surface de réparation brésilienne, Eric.
Non, mais Benoît, vous n'avez pas un ballon là-bas, là, dans la brasserie là, que,
pourquoi?
Comment ça, vous mettez Jérôme sur le boulevard? C'est le boulevard des Italiens, là, non? Comment il s'appelle?
Boulevard Poissonnière.
Boulevard Poissonnière.
Voilà, Poissonnière, voilà. Ouais. Bim, tu lui fais faire une transversale, là, sur le boulevard,
alors,
pour voir.
Alors bah là, autant, là, c'est garanti, hein, je t'annonce. Hein.
Autant la VO2 max a baissé chez Jérôme Bretten, autant le pied gauche est toujours là. La transversale à 40 mètres.
Il y a bon ballon pour Sano, qui a échappé à Casemiro, qui n'a pas échappé à Matheus Cunha, mais l'avantage est laissé par l'arbitre italien Maurizio Mariani. Le jeu se déploie côté gauche avec Keito Nakamura, qui peut servir devant lui Daizen Maeda. Les Japonais repartent par derrière avec maintenant Kamada. Tous les joueurs de champ sont dans la moitié de terrain du Brésil avec ce ballon pour la défense centrale. Shogo Taniguchi avec Tomiyasu maintenant. Sano, le buteur, qui peut s'appuyer sur Ritsu Doan. C'est un beau mouvement préparé par les Japonais. Il y a une belle interception de Bruno Guimarães. Encore une passe ratée de Matheus Cunha à 30 mètres de son but, et quelques sifflets, quelques clameurs d'exaspération qui montent ici à Houston. Les supporters brésiliens, qui sont majoritaires, commencent évidemment à s'impatienter. C'est bien normal à une minute de la fin de la première période.
C'est Casemiro encore qui perd cette balle.
C'est lui, je crois. Et c'est le Japon qui tient le ballon à 2 minutes de la fin du temps réglementaire.
Ça fait de la peine, ça fait même de la peine de voir Casemiro.
Les Japonais, c'est pas des prétendants au titre, je te le dis non plus.
Non, là, aucun des deux, vu ce qu'on voit.
Attention, Junya Ito, la fin de Junya Ito, la frappe pied gauche, elle est contrée par Casemiro. Derrière le contre, amorcé par Bruno Guimarães, il a été attrapé par Kamada. Avertissement logique pour Daichi Kamada, le milieu de terrain de Crystal Palace, qui a interrompu le contre qu'avait lancé Bruno Guimarães. Pour une fois que le Brésil avait une transition à jouer, eh bien, ils ne pourront pas aller au bout à cause de cette faute de Kamada. Faute utile ou pas, ça c'est un débat. Je sais que Jean-Michel n'aime pas qu'on dise ça, Jean-Michel Larqué.
Ah oui. Exactement, les stages Larqué du coup.
Mais quand tu vois cette première mi-temps, alors après ça peut toujours évoluer et on le souhaite pour les Brésiliens parce que là il va y avoir beaucoup de déçus si jamais ils n'arrivent pas à se reprendre. Mais après, ta Côte d'Ivoire, tu joues le vainqueur de la Côte d'Ivoire Norvège. Bah, franchement, quand je vois ce 16e, la première mi-temps là, je me dis que la Côte d'Ivoire ou la Norvège, ils sont bien supérieurs à ces deux équipes-là.
Le centre de Marquinhos en direction de Lucas Paqueta. La tête du joueur de Flamengo, il réclamait un corner. Il espérait qu'elle ait été touchée. Il estimait même, Lucas Paqueta, au point de pénalty, que sa tête avait été contrée par Taniguchi. Il n'en est rien. Et Maurizio Mariani a indiqué le point de renvoi aux 5m50. 4 minutes supplémentaires ici à Houston. Déjà une ou presque de passer. Toujours 1-0 pour le Japon. Le but de Sano à la demi-heure de jeu.
Jérôme, Eric, quelle est la solution pour la seconde période pour Carlo Ancelotti? Au-delà du discours, qu'est-ce qu'il doit mettre en place tactiquement pour relancer son équipe?
Jérôme a raison, il y a des solutions sur le banc. Alors il n'y a pas non plus le banc de touche et voilà, non, puis il y a quand même beaucoup de il y a quelques joueurs qui sont en bout de course, hein. Tu parlais de Fabinho, de Neymar, c'est pas voilà. Ouais. Mais quand tu vois ce que font certains sur le terrain, c'est pas possible, il faut ça peut passer par le banc et peut-être une réorganisation tactique. Voilà, ah oui. Peut-être, on va voir. Hein.
Au moins bousculer ce milieu de terrain qui passe complètement à côté de la première période.
Tu peux pas prendre comme ça la marée par les Japonais sur deux passes du Japon, ils transpercent le milieu. Ouais, déjà, il faut restructurer ton milieu de terrain. Là, on est d'accord avec Eric. Il y a pas énormément de choix, mais Fabinho l'avait très bien fait quand même contre le Maroc. La deuxième mi-temps, changer poste pour poste avec Casemiro, dire aux joueurs à côté, Paqueta, moi je sortirais Paqueta parce que je le trouve pas bon, mais il l'avait laissé, mais au moins restructurer, être proche de Fabinho, et puis après dans le secteur offensif, le petit Ryan, on va pas s'en prendre qu'à lui, mais il est inexistant.
Tu passes en 4-3-1, Jérôme ? Tu passes en 4-3-1, tu mets Neymar en 10, tu mets Bruno et Fabinho à la
Neymar, je le fais pas rentrer. Je le fais pas rentrer tout de suite parce que franchement, je pense qu'il a pas une mi-temps.
Et imagine s'il y a une prolongation en plus.
Ouais, une demi-heure grand max, Neymar, il est capable sur une ou deux actions, il l'a montré sur sa dernière rentrée contre l'Écosse, même si c'était pas le même rythme et on n'attendait pas la même chose de son entrée. Je sais pas, Eric, tu ferais quoi toi?
Est-ce que tu le fais pas rentrer en faux neuf Neymar, sinon qui
c'est ce qu'il a fait le dernier match.
C'est ce que je ferais moi, parce que au moins ça lui évite de faire des courses et ça lui permet de jouer proche des 18 mètres avec son coup de rein, sa technique. C'est là où tu peux l'utiliser. Tu vas pas le faire courir au milieu, hein.
Non, c'est sûr.
Jérôme, les dernières secondes de la première période.
Ouais, dernière minute de cette première période ici à Houston, devant 75 000 spectateurs et un stade aux trois quarts jaune, et pour l'instant des supporters brésiliens déçus. On a aperçu également Carlo Ancelotti qui s'était rassis un instant sur son banc de touche, mâchant frénétiquement son habituel chewing-gum qui doit souffrir. Allez, la transversale peut-être de Bruno Guimarães, côté droit, en direction de Danilo. On est aux abords de la surface japonaise. On repasse par Marquinhos. Le centre de Marquinhos dans la surface, vers la tête de Paqueta, c'est un petit peu long. C'est dégagé par Junya Ito, très loin.
Si ça reste à 1-0, t'imagines, il va pleuvoir des pleurs. Hein.
Attention, parce que Paqueta s'est blessé. J'ai l'impression que Paqueta s'est blessé. Il reste allongé. Au fond là-bas de la surface de réparation, il se tient pied gauche. Le jeu qui continue, on n'a pas interrompu le jeu pour l'instant. Le Brésil est à 10 et ça peut se poursuivre avec Junya Ito qui peut lancer Ueda qui est pris par Marquinhos. Toute l'expérience là du capitaine du Paris Saint-Germain pour enlever ce ballon à Ayazé Ueda. Il est en train de se relever mais en train de boiter, surtout Lucas Paqueta. Et c'est la mi-temps ici à Houston. La surprise, le Brésil est mené 1-0 par le Japon. Le but de Sano à la demi-heure de jeu. Le Brésil ne peut pas continuer comme ça en seconde période.
Merci Jérôme Sillon. La sensation à Houston, le Brésil mené 1-0 par le Japon, 16e de finale de la Coupe du Monde. Assez hallucinant ce scénario. On ne reconnaît pas le grand Brésil mené depuis la 29e, le but de Salo.
J'ai vu Carlo Ancelotti, il a 5 malabars dans la
Coupe. Ouais, ça c'est terrible. Et on voit Davide aussi, Ancelotti. Peut-être que le LOSC va récupérer son entraîneur.
Une bulle qui va nous faire.
Plutôt que prévu. Allez, la seconde période dans un instant avec Eric Dimeco, avec Jérôme Rotten. On parlera également de l'Allemagne. L'Allemagne va jouer son 16e de finale. Ce soir, Julian Nagelsmann est sous pression. Les Allemands affrontent le Paraguay à 22h30 sur RMC.
Oh, c'est tout droit là.
C'est tout droit.
RMC, 18h20. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h52. Sur RMC, oui, Mossa. Ben pour l'instant, le Brésil, il rentre à la maison. Le Japon mène 1-0 à la mi-temps. C'est quand même une surprise. On n'a rien vu du côté brésilien. Et les Japonais méritent de mener au score sur cette première mi-temps. On est avec Benoît Boutron, avec Eric Dimeco, avec Jérôme Sillon sur place. On est dans Rotten sans flamme. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va jusqu'à 21h, jusqu'à la fin de ce match. En espérant que ça s'active un peu plus sur la deuxième mi-temps, Benoît.
Je voulais vous poser la question avant de retrouver Aurélien Tiersin. On va parler de l'Allemagne avec Nagelsmann qui est sous pression ce soir. Allemagne-Paraguay, 22h30 sur RMC.
Mais pourquoi sous pression?
Parce qu'il y a beaucoup de critiques sur son jeu. Et lui, il a répondu, j'en ai rien à faire.
Il a raison.
Toutes les critiques des consultants en Allemagne.
On est d'accord, tous les feux sont ouverts pour Nagelsmann.
Ah ouais, bah super.
Pour les Allemands, ils sont favoris ce soir.
Ah, ils sont favoris contre le Paraguay, tout à fait.
Bon, ils jouent le Paraguay. Le Paraguay, c'est fini, Chilavert, tout ça là.
Ouais, c'est vrai que c'est plus la même équipe. Pour juste un mot sur le Brésil, la prestation de la première période, vous êtes extrêmement déçus tous les deux. Il faut absolument réagir, faire des changements, Jérôme.
Ah oui, moi, Ancelotti, je sais pas l'état de Paqueta là, parce que on l'a vu tenir la cuisse en tout début de match, et puis là, donc. Est-ce que c'est un mal pour un bien? Oui, je le pense, parce que je pense que s'il est capable de reprendre, Ancelotti va pas le sortir. Moi, je sortirais Casemiro, c'est ce que je disais. Ça passe par du changement et puis surtout une dynamique différente. Du moins, il faut mettre beaucoup plus d'envie. Moi, j'ai l'impression que là, ils jouent à la baballe, ils attendent un exploit de Vinicius. Malheureusement, il n'y a que Vinicius qui peut faire la différence offensivement sur cette première mi-temps. Donc, non, c'est bien, encore une fois, très décevant cette première mi-temps du Brésil.
Et Aïs, ce qui nous a inquiétés, c'est qu'on n'a même pas senti vraiment de révolte chez les Brésiliens.
Oui, non, mais on est déçus parce que le Brésil, à la Coupe du Monde, ça représente tellement qu'on s'attend toujours à se régaler devant les matchs du Brésil. Mais de notre côté, c'est pas étonnant. S'ils sont allés chercher, et Dieu sait qu'on respecte Carlo Ancelotti, ça sera peut-être un des plus grands entraîneurs de l'histoire du foot. Mais si le Brésil, qui est le pays du foot, est allé chercher à l'étranger un entraîneur, c'est parce que, d'après moi, ils peuvent pas changer leurs joueurs, tu vois. Donc, ils sont obligés de tenter le coup avec un entraîneur étranger. Mais ils savent très bien qu'ils sont dans un creux générationnel.
Si tu rappelles Neymar qui n'a pas joué depuis 2 ans et demi en sélection.
Voilà, on l'a compris depuis un moment. Après, on attend toujours le miracle ou l'effet Coupe du Monde sur certains joueurs. Et attention, on ne va pas les enterrer parce que on sait très bien que revenir au score, passer, récupérer Neymar peut-être, récupérer Rafinha, ça peut changer une équipe. Mais là, ce soir, là, ce qu'on voit là, il y a des carences qu'on voit depuis le début de cette compétition et qui pour moi ne leur permettront jamais d'aller au bout. Voilà, c'est pas possible d'avoir autant de carences défensives au milieu.
Pour ceux qui avaient des espoirs, vu ce qu'on a vu, on a du mal à imaginer le Brésil faire un long parcours dans cette Coupe du Monde.
Ouais,
tout à fait.
Ouais.
Tiens, parlons de l'Allemagne avec Aurélien Tiersin qui nous rejoint. Salut Aurélien.
Oula. Salut.
Bon, c'est bien ça.
C'est la chanson préférée d'Aurélien, c'est pour ça. Nous, on l'a.
Moi, j'écoutais Aurélien.
Je dis pas, mais on kiffe, ouais.
Ah ouais. Aurélien, ça m'étonne
ouais,
pas.
C'est pas étonnant. Ouais. Ah, je te vois bien là-dessus.
Ah ouais, c'est
oui.
Clair.
À Berlin, là, sur une piste d'avion, là, ouais, c'est bien, c'est au soleil.
Oh, il n'y a pas qu'à Berlin.
Un verre d'eau à la main, Aurélien, t'imagines.
À mon avis. Même aux États-Unis, t'es capable.
Allemagne-Paraguay ce soir, 22h30. Aurélien, tu seras au commentaire de ce match. Tout allait bien pour les Allemands, hein. 2 matchs de poule, 2 victoires, ils étaient assurés d'être premiers. Et puis il y a eu ce dernier match contre l'Équateur, cette défaite de 2-1, et pas mal de critiques qui se sont abattues sur Nagelsmann. Comment il y a répondu alors en conférence de presse?
Ouais, alors voilà, c'est pas une pression qui est encore gigantesque. On remet pas, on renverse pas la table. C'est pas la panique à bord chez les Allemands. Mais on n'a pas compris d'abord d'avoir aligné l'équipe type contre l'Équateur alors que ça servait à rien. En plus, les Allemands, bah, ils ont levé le pied, ils ont pas fait grand chose, ils ont perdu contre l'Équateur. Alors on a demandé hier en conférence de presse à Julian Nagelsmann si c'était grave d'abord d'avoir perdu contre l'Équateur et si finalement ça les arrangeait pas presque d'avoir un statut de sous-favori, qu'on parle plus de la France, de l'Espagne, de l'Argentine. La réponse de Julian Nagelsmann.
Quand on est l'Allemagne, il faut essayer de gagner tous les matchs. Il faudra qu'on ait confiance en nous, en notre plan de jeu, que les garçons se sentent bien sur le terrain. Mais le foot, c'est une histoire de victoire. Si tu gagnes, tout est parfait. Si tu perds, tout est merdique. Alors il faut gagner.
Alors pour l'instant, l'Allemagne n'a pas été extraordinaire, parce que même contre la Côte d'Ivoire, ça a été compliqué. Donc il va falloir prouver des choses. Se donne lui-même perdant. D'ailleurs, le discours de Gustavo Alfaro, le sélectionneur paraguayen, c'était bon, on va se qualifier pour le prochain mondial et puis on verra, on va profiter, on va se battre contre l'Allemagne. Mais la presse allemande, pour l'instant, attend quand même d'être convaincue par Julian Nagelsmann. On peut écouter Carolus Grömann, qui est journaliste allemand et qui n'est pas du tout convaincu, lui, personnellement, par Julian Nagelsmann.
Évidemment, les Allemands sont contents d'avoir évité les débâcles de 2018 à 2022, mais le problème en ce moment, c'est Julian Nagelsmann et sa communication et sa manière de présenter les choses. Il n'est pas ce genre de coach à soulever l'enthousiasme du public allemand. Il est très tactique, organisé et méthodique, et c'est la même chose quand il doit choisir son équipe.
C'est ça le problème, il est trop rigide et par exemple personne ne comprend en Allemagne que Dennis Undav ne commence pas les matchs. On verra tout à l'heure parce qu'il s'obstine avec Kai Havertz en faux numéro 9. Pour l'instant, ça n'a pas été extraordinaire. Moussiala qui joue sur une jambe depuis un an, on se rappelle, il s'est blessé gravement contre le PSG à la Coupe du Monde des clubs ici aux États-Unis. Il n'est pas revenu. Wirtz et Sané, c'est un petit peu moyen pour l'instant. Donc on a un entraîneur qui est arc-bouté sur ses convictions. Alors le Paraguay, personne n'a peur du Paraguay, c'est vrai, mais tout le monde sait que derrière c'est l'équipe de France très probablement en 8e de finale. Et là, personne n'y croit, Jérôme. Et si Nagelsmann perd en huitième de finale, malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, ce sera terminé pour lui.
Ça c'est sûr. Et le Paraguay, le parcours est pas fantastique. Défaite 4-1 contre les Américains, victoire 1-0 miraculeuse contre la Turquie et 0-0 face à l'Australie. Donc c'est pas une grande équipe que l'Allemagne va affronter à 22h30. Merci Aurélien d'avoir été
avec
nous.
Merci Aurélien.
À tout à l'heure.
Confiant pour les Allemands malgré tout, Jérôme ?
Ah oui, je suis confiant. Après, il s'est trompé sur le dernier match, à vouloir faire toujours confiance à son 11. Là, Duga en parlait, et après l'avoir écouté, j'étais assez d'accord avec lui. Pas au départ, mais...
Il a tellement peu de certitude, Nagelsmann.
Oui, donc il se rassure avec une équipe type. Pour lui, ouais. Et puis les entrants, Undav a fait beaucoup de différence quand il est rentré, en effet. Là, il a été refroidi, donc ça a remis du doute dans sa tête. Peut-être que là, il fera les bons choix. Ça reste quand même un coach qui a beaucoup de compétences. On est d'accord ou pas avec ses choix et tout ça, mais ça reste anecdotique, ce que je veux dire. Tout ce qu'il veut proposer, ce qu'il veut amener tactiquement, je trouve que ces équipes, on y voit clair.
Il y a un style,
ouais. Après, il faut un peu plus de réussite, un peu plus des joueurs qui individuellement aussi montent d'un niveau. Mais je pense que là, ils ont vraiment tout en main pour déjà battre le Paraguay. Du moins, on parle du Paraguay, ouais, hein, attention. Hein.
Non mais Jérôme, bon, je suis pas un grand fan de Nagelsmann. Hein. Oui. J'attends encore qui m'impressionne, qu'il arrive à me convaincre. Parce que si tu regardes les noms de cette sélection. Quand tu regardes qui y a dans cette équipe-là, Moussiala, Wirtz, Kimmich, Havertz, voilà, ils ont quand même, Sané, oui, il y en a, j'ai pas cité, mais
Pavlovic, très bon milieu de terrain,
voilà, c'est bon, non, mais il y a beaucoup de mecs du Bayern, ils ont du, il a pas une grosse génération, mais il a, je trouve une bonne équipe. Donc si il sort pas. S'il va pas loin ou s'il arrive une catastrophe à un moment donné, pour moi ce sera sa responsabilité. Tu vois, parce que autant on parle du Brésil avec un creux de génération, l'Allemagne c'est pas la plus belle génération de l'histoire, mais tu dois faire beaucoup mieux que ce que je leur ai vu faire depuis le début de la compétition. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on les a pas mis quand on s'amusait à faire les favoris. Il y a pas grand monde qui les a mis dans les favoris. Il y avait toujours la France, l'Espagne, l'Argentine, l'Angleterre, le Portugal. Voilà. Et eux, ils arrivent derrière. Donc si on les a pas mis là, à un moment donné, il y a une raison. Peut-être parce que la génération est pas extraordinaire, mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et il sera jugé sur le jeu et les performances de son équipe.
Et match dès 22h30 sur RMC dans l'After Live intégrale Coupe du Monde avec Aurélien Tiersin, un commentaire Allemagne Paraguay. On revient dans un instant. Roten sans flamme spécial Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec Eric Dimeco, avec Jérôme Roten et avec la seconde période de Brésil Japon. C'est la surprise à Houston à la pause parce que ce sont les Japonais qui mènent 1-0 pour le moment. On va retrouver Jérôme Sillon sur place. Le but de Sano à la 29e. À tout de suite sur RMC.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.